Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouge, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy, bonjour Bernard, bonjour à tous.
Un petit tour par la Blanche aujourd'hui, Hervé, dans Variation en noir, chose promise, chose due. Nous allons évoquer Impossible de Herri de Luca, publié dans la collection Du Monde Entier chez Gallimard. Et puis, c'est dans nos cartons depuis un moment, nous allons parler de La vie de Gérard Fulmar, un roman de Jean Echenoz. Jean Echenoz, fidèle aux éditions de Minuit. Entre-temps, nous essaierons de défier le temps, justement, pour dire un mot sur le dernier numéro de la revue 813. Oui, Hervé, plutôt rare de parler dans Variation en noir d'un roman d'une prestigieuse collection Blanche du Monde Entier chez Gallimard, mais Impossible de Herri de Luca présente les ingrédients du genre, on peut dire ça comme ça, puisque on pourrait résumer ce livre à un face-à-face entre un suspect de meurtre et un magistrat. Alors, que s'est-il passé sur la vire du Bandiarac en Valbadia, ce jour où a été retrouvé le corps d'un randonneur victime d'une chute fatale? C'est ce que voudrait savoir justement le magistrat qui interroge l'homme qui a donné l'alerte, cet alpiniste qui avait choisi de parcourir ce même endroit escarpé et dangereux. Cet alpiniste explique au juge: j'ai été étonné de voir quelqu'un plus haut qui me précédait. Ce quelqu'un n'était pas n'importe qui, cet ancien militant d'un mouvement révolutionnaire des années 70 en Italie, ancien compagnon de lutte de celui qui a assisté à sa chute, était ce que l'on a appelé à l'époque un repenti, un collaborateur de justice qui a contribué à l'arrestation d'un bon nombre des vôtres, vous compris, précise le magistrat, à celui qui est suspect de meurtre. Ce suspect de meurtre qui défend une autre définition du repenti, une personne qui dénonce ses propres camarades dans le but d'obtenir une réduction de peine, une remise en liberté. Pour moi, c'est quelqu'un qui trahit. Donc difficile, même impossible pour le magistrat d'imaginer que le hasard ait pu réunir ces deux hommes un même jour, sur un même chemin de montagne, et encore plus impossible qu'il n'y ait pas un lien de cause à effet entre cette double présence et la chute mortelle de l'un des deux randonneurs. Dit comme cela, présenté comme cela, Hervé, on a vraiment tous les ingrédients du roman noir.
Oui, on a tous les ingrédients parce que on a ce face-à-face comme une garde à vue, enfin ce face-à-face entre un magistrat et le narrateur randonneur dans ces Dolomites où Herri de Luca lui-même aime grimper. Voilà, on en parlera aussi, il y a des belles pages, y compris sur la montagne et sur le fait d'aller y marcher. Il y a aussi une tension tout du long du récit. Il y a cette enquête que mène le magistrat qui va avancer au fil des interrogations. Il va y avoir à l'intérieur des digressions, mais bien évidemment l'essentiel, enfin je pense, ça n'est pas de savoir si le narrateur a poussé ou non son ancien camarade de lutte dans le ravin, mais c'est plutôt justement au passage toutes ces interrogations qui vont se dessiner autour de l'engagement, de l'amitié, de la trahison, de la fidélité à des valeurs, à un idéal. C'est ça, avec cette donnée de base, Éric de Luca l'écrit, enfin le narrateur l'écrit, le magistrat qui m'interroge à la moitié de mon âge, il ignore tout de la montagne et des histoires des années révolutionnaires, c'est moi qui devrais l'interroger.
Oui, alors aussi, Hervé, une forme quand même très très efficace, Éric de Luca, signe là 170 pages, hein, donc mais c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Et là aussi, il n'y a pas de, alors bien sûr, il n'y a aucun manichéisme, il n'y a pas de tergiversation, c'est direct, précis. Et ça s'inscrit aussi peut-être dans une tradition du roman noir qui, en fin de compte, qui aborde, qui relate les faits.
Il y a une espèce de rapidité, de précision du style, de précision des mots, mais qui est complètement en accord avec cette démarche. Par exemple, tu disais le magistrat appelle celui qui a dénoncé ses camarades un repenti, c'est la langue du pouvoir, et l'ancien militant qui est inculpé répond par le fait que chez lui on appelle ça un traître. C'est toute cette importance de la vérité des mots. Et d'ailleurs, à un autre endroit, il écrit « J'aime cette langue italienne, ses précisions qui protègent des falsifications. La langue est un système d'échange comme la monnaie. La loi punit ceux qui impriment de faux billets, mais elle laisse courir ceux qui écoulent des mots erronés. Moi, je protège la langue que j'utilise. » Et tout ce court roman, mais qui est d'une très grande tension et intensité et émotion, c'est tenu ainsi. Et puis, je voudrais aussi préciser une chose, c'est-à-dire qu'il y a, en dehors de cet interrogatoire qui est tout le fil du livre, il y a par intermittence, il y a des ruptures qui sont des lettres que l'inculpé écrit à Amore Mio, son amour qui est loin, et à qui il raconte ce qui se passe avec le magistrat, les interrogations. Il raconte ses réponses et il lui explique à elle-même, qui n'a pas connu ses engagements, ces années-là, il lui explique les choses, et c'est aussi d'une très grande beauté, d'une très grande clarté. Et il y a une chose j'aime bien aussi, parce que c'est aussi ses réflexions sous forme de digression. Il parle du magistrat, il dit « Il n'est jamais allé en montagne et il essaie de comprendre ce que je vais y faire », sous-entendu comme si j'y allais dans le but de tuer, dans le but de quelque chose. « Je lui ai répondu qu'on n'y va pour rien qui sert à quelque chose, car l'inutile est beau. Je sais que ce n'est pas une explication, mais avant de poser une question sur un sujet, on devrait savoir de quoi on parle. Je ne demande pas à un pilote ce que c'est de voler si je n'ai jamais pris l'avion. » Voilà, et je trouve que c'est aussi bien dans ces périodes-là, cette description de la marche, de la balade, de la randonnée en montagne comme un éloge de l'inutile. Ça fait un peu, on s'éloigne un peu, mais ça fait un peu écho à ce dictionnaire amoureux de l'inutile que François Morel vient de signer avec son fils.
Oui, alors Hervé, justement, là, tu parles des lettres qu'il adresse à cette femme, Amore Mio. En fin de compte, là, on s'aperçoit qu'il y a aussi un parallèle, parce que bon, De Luca connaît la montagne, tu l'as dit, et elle occupe une place importante dans ce roman. Il évoque un moment, quand on est en randonnée en montagne, un moment où on se sent à l'écart du monde. Et quand il écrit donc à son amour, à cette femme, on le sent aussi à l'écart du monde, puisqu'il est en détention pendant toute cette période. Il est en détention, donc il est à l'écart du monde. Et à un moment, il dit, parce qu'il garde une petite, une part d'humour, j'essaie d'inventer des anagrammes. Il y en a une qui me concerne directement, séparée, et son anagramme est Espera. Et je pense que voilà, ça montre aussi un petit peu ce que peut apporter ce roman de De Luca. Donc nous l'avons dit, De Luca.
On n'est pas du tout dans une espèce. C'est d'ailleurs ce roman, il est profondément celui de il est très authentiquement celui de son auteur, de Eri De Luca, qui a eu effectivement un engagement très fort dans les années 70, dans la plus grosse organisation extra-parlementaire, tu en parlais tout à l'heure, l'Ota Continua, et qui, quand l'Ota Continua, une partie est passée dans l'autonomie ouvrière, certains sont passés à la lutte armée, l'organisation s'est dissoute vers 76-77, et Eri De Luca, lui, à ce moment-là, est entré en usine à la Fiat, je crois, où il sait ce qu'est le travail d'ouvrier. Il a participé aux luttes qui s'y déroulaient. C'est aussi quelqu'un qui aujourd'hui à la fois fait ses grandes randonnées en montagne, pratique un isolement, une réflexion, et en même temps n'hésite pas non plus à participer au fracas du monde quand il s'engage notamment contre le TGV italien, le TAV, dans des luttes pour lesquelles d'ailleurs il a été considéré comme une figure de proue. Il a été inculpé, disculpé, je crois, mais voilà, c'est une figure importante qui ne se pousse pas du col et qui est pour moi quelqu'un, l'homme, l'écrivain sont profondément authentiques et ce court livre et voilà, qui est une fois de plus aussi, qui a cette tension du meilleur roman criminel, comme on dit, et c'est une excellente lecture.
Oui, excellente lecture et qui amène à réfléchir aussi sur la notion de justice, puisque bon, on l'a dit, c'est un face-à-face entre un magistrat et un suspect, un face-à-face entre l'homme et la montagne, un face-à-face entre un homme et son passé, mais c'est aussi un face-à-face entre la justice institutionnelle représentée ici par le magistrat et celle que l'on peut rendre par soi-même. Et je pense que même si bon, c'est pas ce qui s'est passé, et de toute manière c'est pas l'intérêt du livre, mais c'est aussi un questionnement cette notion de justice. Hervé, je sais pas ce que tu en penses.
C'est évidemment un questionnement. C'est un questionnement que je pense nombreux sont ceux qui écoutent cette radio se posent, et d'autres au-delà. C'est-à-dire que on sait bien quand même que la justice, que personnalise ce magistrat qui par ailleurs peu à peu s'intéresse à cela, pour lequel il n'a comment c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas monolithique, c'est ça qui est fort aussi, c'est-à-dire que il y a le livre évolue, la marée monte, mais bien évidemment on sait très bien quand même que la justice, enfin en tout cas c'est mon point de vue, est toujours celle de ceux qui détiennent le pouvoir, et que forcément la voix du narrateur, la voix d'Eri De Luca, est la voix de ceux qui à un moment de l'histoire ont été vaincus, et donc voilà, mais justement il reste, en dehors de la marche en montagne pour s'isoler, il reste les mots, c'est-à-dire l'importance avec les mots de rétablir au moins cette vérité-là. Parce que de même qu'il y a des fake news, il y a des fake words, je ne sais pas. Voilà.
Et donc, Eri De Luca, impossible. On va signaler
impossible
la traduction.
Impossible de passer à côté. Si
exactement. Elle est traduite de l'italien par Daniel Valin.
matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julo, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des vins. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on a trépassé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
Vous écoutez Variation en Noir, Radio PFM, Boris Vian, Hervé. Alors...
C'est dans le studio de PFM, là.
Et donc, Boris Vian... Alors...
Je crois deviner une transition, je ne sais pas.
Oui, première chose, donc cette chanson est sortie en 1956. Elle est extraite d'un disque qui s'appelle, Hervé, j'ai découvert ça hier... qui s'appelle Chansons possibles et impossibles. Donc, il y a quand même un lien déjà avec. Un lien avec, bien sûr, le titre du roman de Herri de Luca. Mais surtout, donc, un nouveau lion. D'ailleurs, c'est toi qui m'a donné cette idée, Hervé. Nous voulons faire le.
Oui, mais c'est toi qui m'avais fait lire Impossible d'Herri de Luca.
Voilà. Et donc, nous voulions faire le lien avec le dernier numéro de la revue 813 qui consacre un dossier très, très intéressant à Boris Vian, l'étrange cas de Dr Vivian et Mr Sullivan. Et puis, quand même aussi, par rapport à ce numéro de la revue 813, le numéro 137, signalons quand même, et ça fait le lien avec le sommaire de cette émission, un édito signé par la présidente de 813, Corinne Nédé, qui s'intéresse à un roman, Chaviré, de Lola Lafont aux éditions Actes Sud, et elle pose la question, Chaviré, roman blanc, roman noir, avec un point d'interrogation. Donc on est encore une fois dans notre thématique.
Tout ça se renvoie, et ce n'est pas très, très étonnant.
Et donc plein de choses, hein, comme d'habitude, dans cette revue. Et donc ce dossier, un mot rapidement. rapidement, Hervé, sur
un mot, c'est-à-dire l'idée, elle a été, en cette année où évidemment on célèbre un peu partout Boris Vian, elle était de se poser la question de Vernon Sullivan, c'est-à-dire le pseudonyme qu'il a pris en 1946 pour signer un premier livre qui était « J'irai cracher sur vos tombes ». À l'époque, il avait marqué « Signé Vernon Sullivan » traduit par Boris Vian. C'était l'époque où les éditeurs étaient friands de faux polars américains, en fait écrits par des Français. Plus tard, d'ailleurs, nous qui l'affectionnons, on sait que le premier de Jeune Ami là était marqué traduit par Jean Mecker. Enfin bon, il n'y a pas de bon Dieu. Et donc, voilà, Vian, il poussera même comme il était anglophone, il proposera même 2 ans plus tard la version originale de,
ah oui,
de
ce
livre
c'est...
qui, évidemment, oui, ce qui est
c'est très fort.
C'est une prouesse quand même, hein. I shall spit on your grave. Ouais. Et voilà, bon, le « J'irai cracher sur vos tombes », on sait qu'à l'époque, ça a fait un scandale retentissant. Évidemment, c'était un exercice... Enfin, lui, Vian, il traduisait pour la série noire, il a traduit, je crois, 2 romans de Raymond Chandler, du James Cain, du Peter Cheney, il a traduit aussi un roman particulièrement ingénieux et remarquable, Le Grand Horloger, de Kenneth Fearing, qui a donné un film. Et la question qui se posait, c'était, est-ce que c'était simplement un moyen de gagner sa vie en écrivant, comment ces polars vite fait, pour se permettre d'écrire les livres auxquels il tenait, puisque en 1947, il va publier chez Gallimard L'écume des jours, qui d'ailleurs n'aura aucun succès à l'époque. Hein. Est-ce que c'était une véritable passion? Bon, on sait que c'était l'ingénieur qui était Vian, aimait particulièrement la science-fiction, mais le polar, point d'interrogation. Est-ce que c'était aussi un goût pour la contrainte d'écriture sur les traces d'un Raymond Queneau qui l'a d'ailleurs, qui a été son très grand soutien, qui était d'ailleurs un grand défenseur de la série noire. Voilà, c'est des questions auxquelles les différents intervenants de ce dossier, François Darnaudet, Corinne Nédet qui l'a coordonné, a aussi fait appel à Marc Lapprand, qui est celui qui a coordonné les éditions des 15 volumes de Vian dans la Pléiade. C'est peut-être chez Fayard plutôt, je dis des bêtises. François Roulman, qui est un autre spécialiste de l'écrivain. Et puis.
Un sacré coup.
Voilà, un intervenant qui, pour une autre raison, est assez sur le devant de la scène ces temps-ci, c'est-à-dire qu'il y a une interview d'Hervé Le Tellier, dont il n'aura peut-être pas échappé qu'il vient d'avoir le prix Goncourt pour L'Anomalie chez Gallimard. Hervé Le Tellier, qui est le président de l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle créé justement par Raymond Queneau, et qui, avec quelques-uns de ses collègues, cette année-ci a terminé, enfin en tout cas c'est paru cette année-ci, On n'y échappe pas, c'est-à-dire qui était le manuscrit d'un 5e polar de Vernon Sullivan, Boris Vian, qui n'avait jamais été terminé, et voilà, et Hervé Le Tellier, qui lui-même est un adepte du récit à contrainte,
oui.
Mais aussi un très fin connaisseur du roman noir et du thriller. Son Goncourt en est d'ailleurs truffé, ça a été dit ça et là, il a terminé l'ouvrage, dépassant le simple hommage, mais il nous déclare à 813 que pour eux, pasticher un pastiche du roman noir, cela les a bien amusés.
Voilà, donc un joli coup quand même de 813 avec cette interview du prix Goncourt dans le numéro 132.
J'ai interviewé Nicolas Mathieu avant qu'il ait le Goncourt.
C'est vrai. Donc avis aux auteurs, pour avoir le Goncourt, faites-vous interviewer par 813.
Voilà, c'est bien quand c'est pour les bons Goncourt.
Voilà. Alors Hervé,
il y a quand même dans ce numéro un dossier sur quand même quelque chose qui n'est pas si souvent traité, qui est le polar israélien, oui. qu'ils viennent d'auteurs d'Israël, israéliens, ou qu'ils viennent d'écrivains qui situent leurs romans en Israël. Il y a un retour sur Batya Gour, qui a été une écrivaine particulièrement un meurtre au kibboutz, etc., qui, la première, je crois, a montré un peu l'envers du décor, du rêve kibboutzim, et etc. Et puis, il y a notamment une remarquable, à mon avis, interview croisée entre deux écrivains qui s'avèrent être aussi deux journalistes de Libération, Alexandra Schwarzbrod et Dov Alfon, voilà, que je trouve vraiment très éclairant sur la situation en Israël, sur la littérature et la littérature noire, et comment elle peut se saisir de ce réel-là. Enfin, je ne sais pas ton sentiment.
Si, si, c'est très intéressant. Je vous le recommande aussi. Donc, c'est un focus. C'est présenté comme un focus qui est coordonné par Jeanne Guyon. Donc, je rappelle pour nos auditrices, nos auditeurs qui seraient intéressés pour se procurer la revue 813, il faut passer par le blog 813, par Internet, et vous aurez le cheminement pour pouvoir vous procurer cette revue. Alors, Hervé, tu parlais de pastiche de roman noir, il nous reste peu de temps, mais est-ce qu'on pourrait considérer que Vie de Gérard Fulmar, puisqu'il n'y a pas d'article, le titre et le roman, donc le dernier roman de Jean Eschnoz, qui est paru début de 2020, est aussi un pastiche de roman noir?
Moi, je dirais que c'est plus que ça. C'est amusant parce que je n'avais pas remarqué l'autre jour en feuilletant la brève histoire du roman noir de notre ami Jean-Bernard Pouy. Il y a un chapitre qui s'appelle Les Intellos, qui évidemment règlent leur compte à ceux qui, croyant que c'était une entreprise facile, écrivains de la blanche, comme on dit, se sont essayés à écrire des polars comme juste des pastiches et se sont lamentablement plantés. Donc ceux-là, ils ne les citent pas, mais par contre, à la suite, on trouve justement Boris Vian, dont nous venons de parler, dans un chapitre, un sous-chapitre qui s'appelle « Sous le blanc, le noir », et puis, juste après, Jean Eschnoz, et justement, il dit, à l'époque, voilà, c'est dans le passionnant et distancié Cherokee, il s'attaque avec bonheur à la tradition du récit faussement hard-boiled, ce qui donne un délicieux décalage, sans aucune des habituelles moqueries ou tentatives de pastiche, et un vrai travail stylistique reprenant l'état des lieux après les exemples lancés par Queneau. Vie de Gérard Fulmar, déjà le titre est amusant puisque ça se présente un peu comme les hagiographies, les vies des saints, enfin voilà, et donc des choses particulièrement honorifiques et élogieuses et tout, alors qu'on est plutôt en face d'une vie minuscule chère à Pierre Michon, c'est-à-dire que Gérard Fulmar, c'est un petit bonhomme, je crois.
Oui, alors je suis d'accord, donc plutôt que pastiche, peut-être on pourrait voir ce roman comme un négatif au sens de la photographie et du roman noir, parce qu'effectivement, donc Gérard Fulmar, qui devient détective
après
privé.
Après avoir été un steward raté, qui a été inculpé, pour des actes répréhensibles.
Voilà. C'est l'anti-détective, en fin de compte.
C'est un cameur, non.
Voilà. Et qui est confronté à une organisation politique, la Fédération Populaire Indépendante, pour laquelle il va travailler, enfin pour des membres de laquelle il va travailler. On sent qu'il y a beaucoup de tensions, de règlements de compte politiques. C'est un anti-détective, en fin de compte.
C'est détective, il va, voilà, il est, il va être confronté à cela. Il va y avoir, évidemment, il y a des rebondissements. Le livre commence par une sorte de cataclysme.
Oui, oui, tout à fait.
Dans un coin du 16e arrondissement, ce qui va d'ailleurs provoquer. L'histoire. Il y a l'enlèvement de la fille de la leader du
ce parti
FPI dont tu parles.
Non mais Hervé, c'est vrai que le début, c'est étonnant parce que ça résonne avec une certaine actualité. Donc c'est un satellite, enfin ou une partie d'un satellite qui s'écrase sur une grande surface. Voilà, et là récemment, j'ai entendu aux actualités qui une mission qui se met en place pour nettoyer justement l'espace de tous ces objets là qui traînent et qui pourraient très bien nous dégringoler sur la tête, quoi. Donc
mais tout à fait, on n'imagine pas ce que dans la petite rue Erlanger où habite notre anti-héros, il s'en est passé.
Rue Erlanger, parce que j'ai appris que donc c'est la rue où vivait Mike Brandt. Donc,
qui se suicida, on n'a pas oublié cette tragédie. Je crois aussi qu'il est question aussi dans le livre de l'assassinat du japonais cannibale.
Voilà, c'est ça, qui habitait rue Erlanger.
Lui-même ne va pas manquer de rebondissements entre le rôle des gardes du corps du FPI avec leur nom particulièrement il s'appelle Hermosthène et Apollodore. Il va y avoir aussi une attaque de requins dans les eaux indonésiennes.
Il y a plein de choses.
On ne racontera pas tout ce côté trépidant, mais il est évident que Jean Echenoz, qui déjà dans Cherokee cité par Puy, livrait un vrai faux roman noir à la façon hard-boiled. Il y avait Lac qui empruntait au roman d'espionnage. Jean Echenoz, qui fut l'ami de Jean-Patrick Manchette qui le salua très vite en étant très étonné par ce côté justement. Si ça n'avait été que du pastiche, Manchette aurait rejeté cela. Or, il y voyait justement une virtuosité stylistique et un plaisir qui dépassait largement, un plaisir du texte qui dépassait largement ça. Et puis il a Echenoz, il a toujours aimé s'amuser avec des codes littéraires, s'emparer, les vampiriser. Et par ailleurs, il fait là un livre dont on peut déguster, à mon avis, chaque phrase, chaque page, parce qu'il y a un bonheur, il y a un humour contenu tout du long, mais en même temps. C'est une véritable il y a aussi un véritable polar dedans.
Ce dénommé Gérard Fulmer qui peut faire penser au bof de Cabu. Et moi j'avais pensé aussi à Gérard, de Coluche, tel père tel fils. Hein, je m'étais dit tiens on pourrait mais c'est vrai que c'est étonnant. Alors on va devoir bien sûr se quitter, Hervé. Mais tu l'as dit, il y a quelque chose de enfin, quand même très très fort, moi, chez Echenoz, c'est quand il parle, hein, donc de requins en Indonésie, de satellites qui tombent sur un centre commercial, il est toujours très efficace. Et pour illustrer ça, je pense que les personnes qui ont déjà passé un IRM vont comprendre tout de suite. Il écrit donc Echenoz, mais alors. Donc, c'est Fulmer qui rentre dans une unité d'IRM. Je ne l'avais pas prévu, on ne m'avait pas prévenu. Je suis entré dans une infernale clameur. Je ne vois pas comment désigner autrement le va- vacarme produit par la machine de l'IRM, si multiforme et puissant qu'il en était paralysant, m'empêchant d'avancer et même de regarder où je me trouvais. Déferlement chaotique d'énormes sons relevant de la sirène d'alarme, du klaxon de poids lourd et du marteau-piqueur entremêlés, alternance de solides transfixants de scie sauteuse, monstrueux dos de broyeuses et de presses à emboutir, trio vociférant pour tronçonneuses, grandes orgues et marteaux perforateurs sur contrepoint d'ondes marteneaux préhistoriques, le tout ponctué d'incessantes percussions contradictoires, sans ordre ni connexion, comme si 14 batteurs psychopathes et sourds s'affrontaient avec haine. Alors bon, Echnoz a passé un IRM, c'est sûr, moi aussi, et vraiment, je m'y suis retrouvé. Je ne sais pas, toi Hervé, si tu as déjà passé un IRM.
Je n'ai pas passé d'IRM, mais j'en ai eu des récits par une amie proche, et c'est effectivement très juste, et ça va complètement avec, d'ailleurs, ça peut-être paraître anecdotique, mais à mon avis, ça ne l'est pas du tout. C'est la première fois, je crois que ça fait le 18e livre de Jean Echnoz, c'est la première fois qu'il fait prendre en charge une partie du récit par le personnage lui-même, qu'il y a comment une projection dans le personnage, qu'il y a le côté monologue intérieur et récit adressé au lecteur, le jeu, et il a une exactitude des termes employés qui restituent les atmosphères comme celles que tu viens de citer, qui lui est propre et qui est à mon avis, un travail à la fois prodigieux et jubilatoire pour le lecteur aussi, en tout cas.
Voilà. Donc Jean Echnoz, vie de Gérard Fulmar, aux éditions de Minuit. Puis nous avons aussi parlé de Impossible, le dernier roman en date de Herri de Luca, chez Gallimard, collection du Monde entier. C'était Variation en Noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Bonne lecture en noir et en blanc, en noir et blanc bien sûr, et à toutes et à tous. Hervé, au revoir.
Eh bien au revoir Guy, à très bientôt je crois.
Oui, rendez-vous dans un petit mois.
Oui.